la convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le 4e épisode de notre série consacrée cette semaine au procès de Marie-Antoinette qui en octobre 1793 conduira à sa condamnation à mort et à son exécution. De quoi Marie-Antoinette était-elle coupable? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Emmanuel de Varesquiel. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté au début du procès de Marie-Antoinette le 14 octobre 1793. Un procès d'évidence truqué, politique et dont l'issue est écrite d'avance.
Antoine Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public près le tribunal criminel révolutionnaire établi à Paris, expose que, suivant un décret du 1er août dernier, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, a été traduite au tribunal révolutionnaire comme prévenue d'avoir conspiré contre la France.
Le 14 octobre 1793, dans la salle bondée du tribunal révolutionnaire, Marie-Antoinette, vêtue de sa robe de deuil rapiécée, coiffée d'un fichu de mousseline et d'un bonnet blanc, est assise face à l'estrade où siègent ses juges. C'est de là qu'elle entend l'acte d'accusation rédigé par Fouquier-Tinville, qui inaugure cette année-là sa sinistre carrière d'accusateur public, pendant laquelle, estime-t-on, il demandera l'exécution de plus de 2000 prévenus. Véritable ramassis de préjugés et de rumeurs colportées sur Marie-Antoinette et avec elle toutes les reines de France, l'acte d'accusation donne d'entrée de jeu la tonalité du procès. Il résulte, je cite, qu'à l'instar des Messalines, Brunehaut, Frédégonde et Médicis, dont les noms à jamais odieux ne s'effaceront pas des fastes de l'histoire, Marie-Antoinette, la veuve de Louis Capet, a été depuis son séjour en France le fléau et la censure des Français. Qu'elle avait des rapports politiques avec l'empereur d'Autriche, que ces rapports étaient contraires à l'intérêt de la France, que non contente d'avoir dilapidé les finances de la France pour satisfaire à des plaisirs désordonnés et payer les agents de ses intrigues criminelles, il est notoire qu'elle a fait passer à l'empereur des millions qui lui ont servi et servent encore à soutenir la guerre contre la République. On le voit, aux accusations clairement politiques, se mêle l'expression de la violente misogynie du mouvement révolutionnaire.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Une misogynie qui trouve son expression la plus terrible à la fin du discours de Fouquier-Tinville. Enfin, la veuve Capet, immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine, est si perverse et si familière avec tous les crimes qu'oubliant sa qualité de mère et les démarcations prescrites par les lois de la nature, elle n'a pas craint de se livrer avec Louis-Charles Capet, son fils, et de l'aveu de ce dernier, à des indécences dont l'idée et le nom seuls font frémir d'horreur. Interrogée sur cette accusation d'inceste qui sera répétée par le témoin Hébert, le pamphlétaire radical du père Duchesne, Marie-Antoinette reste silencieuse. Quand un juré lui demande pourquoi elle ne répond pas, elle explique « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. » Cette réponse d'une honnêteté évidente aux yeux de tous sera reproduite dans la presse. Robespierre s'inquiétera d'ailleurs que cette accusation délirante et grossière n'attire la sympathie du public. C'est avec le même courage et la même dignité, tous les témoins en conviendront, que Marie-Antoinette, pendant tout le procès, fait face à ses juges. Malgré la fatigue, la solitude et le désespoir, l'ex-reine de France, qui a une haute idée de son rang et ne veut pas flancher, fait montre également d'une étonnante maîtrise politique. Comme elle est loin, la jeune reine légère, charmante et dispendieuse qui jouait à la fermière à Versailles. Emmanuel de Varesquiel, de quoi Marie-Antoinette est-elle accusée par le juge Hermann et comment y répond-elle?
En travaillant sur ce livre que j'ai écrit sur le procès de Marie-Antoinette, j'ai découvert au grand dépôt des archives nationales, dans ce qu'on appelle l'armoire de fer, et qui est au centre, je dirais, qui fait le centre du centre de la mémoire de la France. Et j'ai retrouvé dans cette armoire de fer les pièces du procès, et entre autres, une minute manuscrite de l'interrogatoire conduit au cours du procès, probablement rédigé par l'un des huissiers du tribunal révolutionnaire. Et quand on lit ces notes, et qu'on les compare avec ce qui a été publié dans le Moniteur universel dans les jours qui ont suivi le procès, qui était un peu quand même aux ordres je dirais, de la Convention et qui ressemblait un peu à la Pravda, on s'aperçoit qu'il y a de très très grandes disparités, à l'exception de cette réponse de Marie-Antoinette qui est notée dans le Moniteur. Mais je pense à certaines réponses de la reine, lorsque par exemple le président du tribunal, Herman, lui demande si par hasard elle ne voulait pas remonter sur le trône en quittant les Tuileries le 21 juin 1791 pour Montmédy, avec cette fameuse arrestation à Varennes entre-temps, elle lui répond du tac au tac « mais nous ne voulions pas remonter sur le trône puisque nous y étions ». Elle est à la fois, nous l'avons dit, elle est à la fois accusée de complot, d'avoir comploté contre la République, et elle est accusée de trahison, d'avoir conduit des correspondances secrètes avec les ennemis de la République contre la République. Donc c'est cette double accusation qui n'est étayée d'aucun document qui lui est porté au cours du tribunal, mais ça va plus loin. Au fond, elle est accusée d'être une femme et une mère, et on l'accuse de ces fameux débordements financiers, ces fameuses orgies de Trianon, ces fameux convois d'or envoyés à Vienne. Et on finira au bout du bout, à la demande de Hébert, qui incarne l'aile gauche radicale de la Révolution à la tête du père Duchesne, qui prend la succession de Marat, en concertation avec le couple Simon, qui est chargé de la garde du petit dauphin, enfin du petit Capet, du point de vue de la Révolution à la tour du Temple, on finira par l'accuser d'inceste. Au fond, on ne peut pas reproduire un deuxième régicide sur la personne de l'enfant royal qui a 7 ans, et on va conduire une sorte de régicide moral à travers cette accusation d'inceste. Le petit Capet sera interrogé à la tour du Temple et finira probablement terrorisé par avouer ce qu'on lui demande de dire, c'est-à-dire qu'il aurait été... Il aurait été caressé, et qu'il aurait subi cet inceste de la part de sa mère.
Vous avez dit Emmanuel de Varesquiel...
Et de sa tante.
Vous avez dit Emmanuel de Varesquiel qu'il n'y avait pas de preuves, donc aucun papier prouvant la culpabilité de Marie-Antoinette. Mais à vos yeux, elle a quand même participé à comploter avec les puissances étrangères. Elle a fabriqué ces tentatives d'évasion, elle a communiqué des informations aux puissances étrangères. Donc elle n'est pas innocente.
Elle compte, du point de vue de la République, elle ne l'est pas, bien entendu. Elle continuera du point de vue au fond de la Révolution, parce que lorsque la République est proclamée, elle n'a plus aucun pouvoir de rien. Elle est enfermée à la tour du Temple. Mais tant qu'elle est aux Tuileries, elle mène une correspondance secrète, cryptée, avec Mercier Argenteau, qui est à Bruxelles, avec la cour de Vienne. Mais elle a une position qui est au fond une position d'extrême prudence. Je vous ai dit qu'elle était en butte à la rivalité et de ses frères qui conduisent l'émigration et qui, eux, sont les partisans d'une entrée à main armée sur le territoire de la République. Elle ne l'est pas. Jusqu'au dernier moment, elle réprouve ce plan militaire de marche sur Paris de la part des armées coalisées.
Elle n'est pas à l'origine
Elle finira par s'y soumettre, si j'ose dire, dans les derniers jours de juillet 1792, quelques jours avant la prise des Tuileries, tout simplement pour sauver sa vie.
Elle n'est pas à l'origine du manifeste de Brunswick qui menace les révolutionnaires de répression.
Ni à l'origine de la fuite à Varennes, c'est le roi qui prend les décisions, ni à l'origine évidemment du manifeste de Brunswick. Un contre-manifeste avait été proposé par Mallet Dupan et Pellin, qui était un ancien secrétaire de Mirabeau, et qui allait au contraire dans le sens d'une préservation des liens qui pouvaient encore exister entre le roi et la nation. Donc au fond, on est là dans les accusations qui lui sont portées, dans une version qui est la version de la Révolution et de la République, qui n'est pas forcément conforme à ce que l'on sait de ce qui a pu se passer au cours de ces années tumultueuses 90, 91, 92.
Donc selon vous, Emmanuel Varesquiel, elle n'a pas fait passer de l'argent à l'Autriche
absolument
pour faciliter
pas,
son
pour
évasion
le coup. Non, non, ça relève absolument du fantasme.
D'accord. Merci Emmanuel Varesquiel. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la fin de ce procès expéditif, la condamnation à mort et l'exécution de Marie-Antoinette.